Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de vous parler de notre coup de cœur ciné de cette semaine, Promis le ciel, qui sort mercredi dans les salles. Le nouveau film d'Éric Seri, qui sera notre invité exceptionnel dans un instant avec Aïssa Maïga. Nous aurons également le plaisir de recevoir le chanteur Tom Fragé pour un projet exceptionnel qui lui tient très à cœur. On le découvre en fin d'émission avec Tom. Et puis nos coups de cœur télé de la semaine, consacrés à Demain nous appartient, avec Andrea Furet, qui fait son arrivée dans la série, qui nous dira tout sur son rôle. On aura le plaisir de recevoir également Ahmad Kantar pour la série Le Diplôme, dont le final sera diffusé ce soir à 21h10 sur TF1. Et puis jeudi, nouveauté pour la chaîne Novo 19, c'est leur première série originale qui s'appelle Le Signal, adapté de romans de Maxime Chattam. Slimane Baptiste Beroun et Karim Waret, les deux réalisateurs, sont avec nous pour nous présenter cette toute nouvelle série. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Encore une fois, on démarre avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à Promis le ciel, qui sortira mercredi dans les salles. On a de la chance aujourd'hui de recevoir la réalisatrice Erige Seyri, qui est avec nous. Bonjour Erige.
Bonjour.
Merci d'être là, une habituée de l'émission qu'on a toujours plaisir à recevoir, Aïssa Maïga, qui va beaucoup nous émouvoir dans ce film. Encore une fois, bonjour Aïssa.
Bonjour, merci.
Merci d'être avec nous. On va y suivre l'histoire de Marie, une femme pasteur à Tunis, qui a un refuge où elle recueille des filles, justement. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs caractères, justement, dans ses filles, mais surtout aussi une petite fille qui va mettre un peu, je vais pas dire le bazar, mais qui va perturber un peu l'équilibre, pas familial, mais quasiment, de toute cette petite communauté qui vit ensemble. D'où est venue l'histoire déjà, Éric? J'aimerais bien qu'on plante un peu le décor, un peu de l'idée du film.
À l'idée du film, elle est venue justement de cette pasteur, mais qui n'était pas pasteur au départ, puisque j'ai fait la rencontre d'une amie, enfin d'une journaliste ivoirienne qui est devenue une amie, et quelques années plus tard, on s'est recroisés pour parler un peu de la situation politique, on va dire, du pays, enfin la situation du pays en général sur la question migratoire. Et elle m'avait dit, tu sais, j'ai un autre métier à côté, je suis aussi pasteur. Et c'est vrai que j'avais été fascinée par ça, surtout venant d'une journaliste, c'était assez étonnant. Et ça a été le début de l'écriture de ce film, Promis le ciel, où c'est une femme pasteur qui accueille chez elle d'autres femmes. Donc on est dans une église de femmes en réalité, et notamment une enfant aussi, Kenza. Et ensemble, elles vont constituer cette famille recomposée. Donc c'était un peu ça l'idée du film. Après, les personnages sont venus au fur et à mesure de l'écriture, mais aussi de l'avancement très très proche du tournage. Aïssa est arrivée 10 jours avant. Enfin, c'était assez incroyable, quoi. Parce que tout était encore remis en question tout le temps, jusqu'à la dernière minute, en se disant, voilà, quels sont les portraits finalement, les portraits de femmes qu'on va garder. Et je suis très contente du résultat.
C'est vrai que le résultat est très beau. Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez Marie, Aïssa?
Ce qui m'a plu chez Marie, c'est sa foi immense en l'être humain.
par devers la situation dramatique dans laquelle toute cette communauté de migrants ivoiriens est plongée. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle, à travers ses prêches, elle essaye vraiment d'insuffler une force de vie, la certitude que chacun a sa place. Chacun a le droit de vivre, de croire en ses rêves, de se réaliser. Ce qui m'a plu, c'est la beauté de sa pudeur, ce qu'elle cache, ce qu'elle ne montre pas et ce qui nous parvient au fur et à mesure du film. Ce qui m'a plu, c'est le fait que ce soit une ancienne journaliste. Moi, je suis fille de journaliste. Érige, la réalisatrice, est aussi anciennement une journaliste. Et je pense qu'on, quand on a été journaliste un jour, on le reste. Et voilà, c'est un personnage qui a différentes facettes, qui a été passionnant à jouer et pour lequel Érige m'a magnifiquement accompagnée. Parce que, comme elle l'a dit, je suis arrivée 10 jours avant le début du tournage. C'était un peu chaud quand même, au niveau de la préparation express. J'avais un peu la pression.
Ah oui, j'imagine très bien. Alors Yanane, qui est une jeune maman qui essaye voilà de se construire un avenir, et puis il y a Jolie qui est vraiment une étudiante au fort tempérament. Il y a vraiment des caractères complètement différents. L'arrivée de Kenza va rien arranger. On se rend compte qu'en Tunisie, le problème est un petit peu le même parce que c'est ce qui va perturber un peu ces jeunes femmes aussi. C'est quoi faire de cette petite si on la donne aux services sociaux, on ne sait pas ce qui va en advenir. Et c'est aussi toute la question du film. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant ? Est-ce qu'il y a une humanité débordante chez ces trois femmes ?
Oui, parce qu'en fait, en réalité, un film, il a un contexte. Enfin, là, il avait un contexte pour les gens qui connaissent pas. La Tunisie, elle a traversé, voilà, une révolution, des élections, etc., une démocratisation, et puis après, la crise économique, puis après, la crise migratoire, et puis voilà, on n'y échappe pas, en réalité. Et puis ensuite, des violences à l'encontre des migrants, évidemment, pas de toute la population tunisienne, et heureusement, mais c'est arrivé et c'est dans ce contexte que le film est raconté. Et c'est là que on voit les défis quotidiens de ces femmes dans ce contexte-là en Tunisie. Et elles ont toutes des parcours différents, même elles viennent d'endroits différents, elles sont là pour des raisons différentes. Une étudiante n'est pas une migrante en réalité, même si elle est entre guillemets traitée comme telle, enfin pas traitée mais en tout cas vue comme telle. Parce qu'elle est ivoirienne, donc elle est forcément migrante. Mais en fait, non, elle est étudiante. Et elle résiste aussi face à ce regard qu'on porte sur elle dans le film. Et chacune résiste en fait au regard qu'on peut porter sur elle en disant « mais je suis unique, individuelle, je suis moi en fait ». Et en même temps, on est tous l'autre de quelqu'un, on est tous le miroir de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on traite aussi en filigrane la question du racisme, qui existe aussi dans nos pays. Et pour lequel on n'en parle pas beaucoup. Et tout ça s'inscrit dans ce contexte-là très particulier, mais en même temps qu'on peut vivre un peu partout, que ce soit en France ou ailleurs, en Tunisie ou ailleurs.
On va écouter la bande-annonce. On va revenir un peu justement sur ta rencontre avec Nané et Jolie dans le film Aïssa. On va écouter tout de suite d'abord la bande-annonce. Promis le ciel, ça sort donc mercredi au cinéma. On revient juste après avec Érige et Aïssa. Tout de suite.
Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia!
Alléluia!
Comme ça, on va bien s'occuper de toi.
Que les clients d'origine subsaharienne qui s'y trouvaient étaient raflés par la police.
Les tontons blancs là disent qu'on mange le chat. Toi, tu manges le chat?
Viens te manger.
Oh!
Promis le ciel, le film à ne pas manquer mercredi au cinéma, film d'Érige, c'est Eric et notre invité avec Aïssa Maïga aujourd'hui. Aïssa, on va parler un peu de ta rencontre justement avec les trois comédiennes, j'oserais dire, qui t'entourent. Oui. Deux et demi. On va dire, la troisième, elle est petite, hein. Elle fait la moitié de votre taille. Mais alors, elle prend une place incroyable.
Oui. Alors, je vais commencer par Kenza, qui a 4 ans au moment où on tourne le film. Bon, Kenza, elle est extrêmement marquante. C'est une petite fille qui a une personnalité hyper forte, qui a une répartie. J'ai rarement vu ça. Hein. Elle te sort des punchlines à tout va. Et puis, elle te regarde avec un regard un peu par en dessous, hyper malicieux comme ça. Elle sait exactement l'effet qu'elle provoque. Elle est d'une grande intelligence. Et puis, Érige et elle, voilà, se sont rencontrées. Érige a pris le temps vraiment de la connaître. Donc, Kenza était complètement préparée au film. Et je dirais qu'elle m'a adoptée. Au bout de quelques jours, comme ça, elle m'a appelée maman. Et j'étais un peu saisie. Je lui ai dit, mais tu sais, je suis pas ta maman. Elle m'a dit, si, t'es ma maman. Et je pense qu'elle avait compris que j'étais un peu sa maman du film. Parce que par ailleurs, sa maman était très présente et voilà, il n'y avait pas de confusion non plus, c'était très marrant. Et puis, évidemment, il y a mes consoeurs, Laetitia Ki, qui joue donc le rôle de l'étudiante. Laetitia, je la connaissais un petit peu à travers Instagram. C'est une artiste qui peint et qui fait également des sculptures avec ses cheveux, qui sont des sculptures assez engagées. Et je la trouvais absolument fascinante et ça a été une très grande rencontre. Et puis, il y a eu Déborah Nanet qui joue son propre rôle dans le film, qu'Erige, mais elle en parlerait mieux que moi, a rencontré au moment où Déborah s'apprêtait à faire la traversée de la Méditerranée. Et le film l'a un petit peu stoppé dans son élan. Et c'est une personnalité très forte. C'est quelqu'un qui a un tempérament de feu, qui est très drôle. Et on sent aussi que c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses. Ça a été des rencontres très belles, très fortes. Et je trouve que les personnalités se voient à l'image. C'est beau, en fait, de voir comment... Bon, chez une actrice professionnelle, c'est notre métier. Mais pour des gens qui n'ont jamais fait ça... qui ne se sont jamais projetés là-dedans, accepter d'être regardés, oser être soi en fait devant une caméra comme ça, je trouve que c'est toujours magnifique et c'est vraiment de très belles révélations. Hein. Le public sort vraiment très très marqué par ces individualités.
Il y a vraiment un mot qui me vient quand j'ai vu le film, c'est humanité débordante, quoi. C'est vrai que ça parle de l'humain avant tout, des questions qu'on peut se poser sur l'humain, du contexte effectivement politique, économique, qui est pas sans rappeler celui qu'on traverse en France, hein, faut le dire quand même aussi. Il y a toute cette humanité autour de ces femmes. Comment les trouves? Qu'est-ce qui t'a attiré, Erige, en tout cas, dans ce casting? Comment t'as fait pour les trouver, la petite Kenza? Combien d'enfants t'as vu pour la choisir, elle? Pourquoi elle?
Ah.
Il y a beaucoup de questions à la fois.
Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est la base, en fait. C'est la base du film. Tout peut changer pour elle. Je suis prête à tout, en fait. Je suis prête à tout réécrire pour elle. Parce que j'ai rencontré la bonne personne. C'est pas forcément l'inverse. Je suis pas en train d'écrire et d'essayer de trouver exactement la personne qui conviendra à ce que j'ai écrit. Tout peut encore changer. Si je ressens instinctivement que cette personne a quelque chose à dire aussi dans le film indirectement.
Et à apporter.
À apporter et à vivre, en fait, ensemble, en fait. C'est ça, en fait, ce que je cherche. Est-ce que c'est la bonne combinaison? Est-ce que Nané Fouette, c'est la bonne combinaison? Est-ce que Marie et le propriétaire Ismaël est la bonne combinaison? Est-ce qu'ensemble, ils disent quelque chose individuellement et ils disent quelque chose ensemble? Et ça prend du temps et c'est des étapes de fabrication d'un film que je préfère puisqu'elle est faite de rencontres et d'humanité justement. Et moi, le casting a été multiple. Aïssa, c'est une grande comédienne, donc je la connaissais déjà. Laetitia, pareil, j'ai rencontré sur Instagram. Nané en casting sauvage. Kenza dans Les Églises évangéliques. Donc les castings sont multiples, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des tentacules comme ça. Puis finalement, après, tout devient comme dans le film et c'est ça l'objectif, c'est que tout semble tellement naturel.
C'était peut-être aussi un choix d'avoir quelqu'un comme Aïssa sur qui t'épauler, t'appuyer. Le fait d'avoir d'autres comédiennes qui n'étaient pas forcément professionnelles, mais d'avoir quelqu'un comme Aïssa qui a aussi réalisé pour le coup aussi, ça met en sécurité, ça aide.
Oui. Oui, c'est totalement ça. Je savais que je pouvais échanger avec elle aussi du film en lui-même, de ce qu'il porte, de ce qu'il dit en fait, en dehors même des scènes, c'est-à-dire le film en lui-même. Et je savais qu'aussi avec les autres comédiennes, notamment Nané, qui était très impressionnée au tout départ quand je lui avais dit que Aïssa allait jouer le rôle de Marie. Elle m'a dit, mais comment je vais faire? J'ai jamais joué dans un film. Tu me mets face à Aïssa, my gars. Et c'était super beau à voir. Et c'est vrai que je me sentais en sécurité avec Aïssa. En tout cas, en plus pour ce rôle-là, qui est un rôle de composition difficile, j'étais rassurée quoi, d'avoir Aïssa avec moi.
Je me doute. Le plus beau souvenir, Aïssa, de tournage?
Il y a plusieurs choses. Il y a eu ces moments à la plage. On est sortis de la maison. En fait, tout le tournage quasiment se passait dans cette maison, qui est le refuge de Marie, comme vous disiez, dans lequel elle accueille, dans lequel elle officie aussi le culte. Pour des raisons sécuritaires aussi, on est resté au maximum dans cette maison, un peu à l'abri. Erige ne voulait pas exposer certaines personnes qui n'étaient pas forcément toutes en situation régulière au risque d'être
expulsées.
Oui, d'être expulsées. Vous le dites très bien, c'est ça. Et quand on est sorti, on a tourné ces scènes au bord de la mer avec la petite qui était heureuse d'être là et avec Noé. Qui est mon ami dans le film, un ami que je connais depuis longtemps. Ses regards, ses petits riens, j'ai adoré tourner ça. Tout comme j'ai beaucoup aimé tourner la scène avec Noé, encore une fois, où on découvre quelque chose de Marie, une blessure, quelque chose d'enfoui. Mais j'ai aussi beaucoup aimé les scènes de culte, puisque les personnes avec qui on tournait, les fidèles, me prenaient pour une vraie pasteur. Ils avaient décidé que c'était pas qu'un film. Parce que voilà, c'est ça, c'est des vrais fidèles, c'est une vraie paroisse, en fait, réunie pour le film. Et donc, dans les scènes de prêche, ces personnes-là étaient vraiment en prière. Et ça, c'est, ça change. Sur les plateaux, en général, on prend des figurants qui, voilà, qui font semblant. Et c'était à la fois un grand challenge parce que j'avais l'impression d'avoir été catapultée sur le film, d'avoir que ma préparation n'était pas finie. Et en même temps, c'était un cadeau immense d'être plongée comme ça dans le réel. En fait, des beaux souvenirs, j'en ai plein. J'ai que ça, hein, sur le tournage.
Bon, merci beaucoup Aïssa, en tout cas. Erige, dernière question pour toi. Comment on se sent, là, à 2 jours de la sortie, de livrer son bébé ?
On se sent prêt à le présenter, parce que nous, on en est fiers, on en est heureuses et heureux, et on a hâte de le présenter au public français, de croire au bouche à oreille.
Un très bel accueil, en tout cas, déjà, en avant-première, et notamment au Festival d'Angoulême, hein, ça c'est sûr, il y a quelques semaines.
Oui, l'accueil en festival a été formidable, à Cannes, à Angoulême, dans les autres festivals, et on a hâte de rencontrer le public, de débattre, de discuter, parce que c'est aussi un film où il y a plein de petits éléments dans le film encore qu'on peut révéler encore plus au public pendant les débats, et ça c'est riche.
Oui, une fois qu'ils l'ont vu, ça c'est sûr, il y a plein de questions à poser. Aïssa, pour terminer.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que parfois, j'ai remarqué les gens à la fin des projections disent « Ah mais je m'attendais pas du tout à ça. » Et d'ailleurs, j'hésitais à venir, c'est un film sur la migration, etc. Et les gens ressortent à la fois émus, c'est vrai, mais aussi heureux d'avoir vu des personnages aussi lumineux, un film très bien réalisé avec une image. Il faut saluer le travail de la chef opératrice Frida Marzouk. Une image qui est sublime, beaucoup de poésie. Et le film, c'est aussi ça, c'est un film qui est très vivant.
Promis le ciel, c'est mercredi, c'est au cinéma, film d'Erige Seri et avec Aïssa Maïga, casting de fou autour, un film d'une humanité débordante, vous allez voir. En tout cas, ça fait du bien, des films comme ça, on en a besoin, surtout avec l'automne, voilà, et ben, on a envie des films qui font sourire un peu, qui donnent de l'espoir aussi, parce que c'est un film d'espoir, il y a tellement de sujets dans le film qui sont abordés, que voilà, on vous invite en tout cas à aller le découvrir. Mercredi, au cinéma, merci les filles, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Ma fille, qui t'a dit jeune fille?
Elle est passée ta maison.
Non.
On aura la chance de la voir.
Tu sais, la distance, ça tue l'amour. Tout le monde nous tourne le dos en ce moment dans ce pays. Tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit les uns avec les autres.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de Chute. On écoute la télé avec Tom Fragé, Amad Contard, avec également Andrea Furé et Slimane Baptiste Beroun et Karim Ouaret. À tout de suite.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
On est 2 étoiles qui brillent dans l'univers. On se regarde de loin, toujours un peu fier. Je ne connais pas ton désert, le mien il est là dans mon cœur. À chaque fois que je te perds, à chaque fois que je te sers.
Le temps passe et j'oublie qui je suis, à 2 rues de chez toi. Je ne sais plus quand finit la nuit, le ciel est tombé si bas. Faudrait que je t'écris, que j'ai enfin le courage. Mais j'ai peur de ce qui arrive, et de tourner la page.
Siamo un libro sul pavimento di una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'engobre sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale. E meno male se la dernière chanson est juste après la lune explosera. Je viendrai te dire que tu as tort, tu as tort encore. Laisse la musique te parler de moi. Et tu non dormi, dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagerà. Tutte le cose, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Elle sera là quand tu t'endormis, dormi, 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 dormira. C'est la dernière chanson pour toi.
On est 2 étoiles qui brillent dans l'univers. À
crier sur tous les toits qu'on a peur du noir.
Plus personne ne fait ça aujourd'hui. On ne voit même plus ça dans les films. Sur ton lit,
y a des fleurs pour moi. Il y a mon gilet en métal. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale. E meno male
se la dernière chanson est juste après la lunette closera. Je viendrai te dire que tu as tort, tu as tort encore. Laisse la musique te parler de moi. Quand nos colères s'enflamment comme un feu de paille, elle te dira tout ce que je te dis pas. Elle te dira qu'il faut tenir, tenir encore. Laisse la musique te parler de moi. Tanto lo so che tu non dormi. Spegni la luce anche se non ti va. Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce. Al di là della follia che balla in tutte le cose.
Due vite, guarda che disordine.
Se la dernière chanson pour toi, je viendrai te dire que tu as tort, tu as tort encore. Laisse la musique te parler de moi. Elle sera là quand tu t'endormis, dormi, 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 dormi. C'est la dernière chanson pour toi.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, c'est la troisième soirée pour Le Diplôme. C'est la série événement de TF1 en ce moment et vous allez découvrir le grand final. Et on est avec Ahmad Contard pour nous en parler justement. Bonjour Ahmad.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est Hussein, c'est ça?
C'est Hussein le personnage effectivement. Ouais.
Alors c'est un personnage qu'on a découvert déjà sur les quatre premiers épisodes. Hein. C'est vraiment un personnage qui revient, qui passe son bac, qui lui pourtant a déjà des examens qui sont pas valides en France puisqu'il est arrivé en France il y a quelques mois et il a eu la surprise de voir que ses examens étaient pas du tout reconnus ici. Il a décidé de repasser son bac aussi pour ces raisons-là en tout cas pour ce personnage.
Oui, alors pour parler deux trois mots en fait sur Hussein. Oui, c'est quelqu'un qui n'était pas arrivé il y a quelques mois, il est arrivé il y a quelques années, il est arrivé en France, il se retrouve en France du coup en fait son pays d'exil ou son pays de refuge. Et il va travailler dans un premier temps pour répondre à ses besoins et puis ensuite il dit j'avais un rêve en Syrie, c'est de devenir médecin, pourquoi pas repasser mon bac. Bien sûr en fait il va comprendre que c'est pas possible de trouver un équivalent parce que c'est vrai en France on peut pas avoir trouvé un équivalent en fait pour faire médecine même si on était médecin diplômé dans le pays d'origine. Et du coup il dit ok, il y a pas de souci, il dit c'est pas grave, c'est un défi à surlever et il va le faire. Il va dire j'ai surmonté en fait le défi et pourquoi pas.
Tout en continuant à travailler pour essayer de gagner de l'argent en étant livreur.
Oui. Et la personne pour répondre à ses besoins financiers ou autres. Et ça se trouve aussi qu'elle a des familles aussi en Syrie. C'est quelque chose qui est très courant. Les gens qui viennent ici, qui travaillent, et puis ensuite ils donnent aussi certains de leurs sous pour aider en fait leur famille qui restant dans le pays.
Oui, c'est ça qui est compliqué pour ce personnage. Il va faire qu'il concilie effectivement l'argent pour se sortir un peu de tout ça et en même temps, eh bien, les études. Ça va lui donner des journées évidemment à rallonge, des moments d'émotion, puis surtout aussi des amitiés qui vont se créer avec les autres personnages.
Oui, pour lui en fait le lien d'amitié c'est beaucoup plus que le lien d'amitié pour lui. On le voit dans ses comportements. C'est quelque chose qui est le seul truc qui est pas étrange mais curieux en fait comment il se comporte avec les autres parce que lui la personne en fait à qui il parle il a pas de famille, sa famille est très lointaine en tout cas géographiquement parlant et puis ensuite il voit ces gens là et il dit dans le premier ou deuxième épisode il dit on est une famille maintenant parce qu'il le voit ainsi. Il les voit réellement comme une famille parce que, à part son vélo, à part son sac de livraison et à part les livres, on pense ou on croit savoir qu'il vit seul, cette personne. Qu'il vit pas vraiment avec beaucoup de gens.
Qu'est-ce qui t'a plu dans le personnage? Qu'est-ce qui t'a fait y aller?
Hussein, le personnage, ça ressemble beaucoup à Ahmad. Du coup, en personnalité, on n'a pas du tout le même comportement. Mais en histoire, en cheminement, c'est plus ou moins similaire. Du coup, en fait, ça m'a énormément plu et ça m'a touché. Ça m'a donné la chance et l'occasion de réinterpréter certains cheminements personnels.
Ahmad, t'es arrivé il y a combien de temps, toi, en France?
Moi, je suis arrivé il y a 9 ans, en France.
Ah, t'es un Français quasi parfait. Hein.
Quasi. On peut pas être parfait.
T'as fait d'autres rôles avant?
Oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs réals. Et j'avais fait plusieurs rôles, oui.
C'est quelque chose qui te plaît?
Oui, beaucoup. J'adore et je me suis trouvé dedans et c'était vraiment comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, je suis acteur par défaut. Je suis pas quelqu'un qui a fait en fait une école de théâtre. J'ai eu de la chance, il y a quelqu'un qui m'a proposé un rôle et j'étais sincère parce que je préfère être sincère tout le temps. Je suis pas acteur, j'avais dit que je suis pas acteur, il m'a dit t'inquiète, je veux toi dans le film et on
va. C'était quoi ton premier rôle ?
Le premier, j'étais danseur dans un cabaret. Et puis ensuite le film était vu et un deuxième réel en fait qui m'a Diarcast qui a vu le film, il a dit il est pas mal celui-là et je proposais sur un autre projet sans me dire, ça je savais pas. Et puis ensuite un autre projet, un réel en fait, tout d'un coup il m'appelle, il me dit regarde, j'ai un film, ouais, j'ai pensé à toi, etc. Je dis ok merci, mais je suis pas acteur, je suis toujours pas acteur. Il me dit non t'inquiète, moi j'aime bien travailler avec les non-acteurs et je pense que tu vas-y, on va faire 2-3 séances de lecture. Je dis ok vas-y on fait et on a fait. Et puis ensuite c'était pendant le Covid en plus, il m'appelle, il me dit si tu veux le rôle il est pour toi, je te donne ta chance, mais il faut que tu sois engagé, il faut que tu comprennes, tu dois bouger, tu dois aller en Grèce pour tourner pendant 3 mois. Et j'ai dit ok, et le film était après à Cannes et j'ai rencontré mon agent, etc. Il me dit tu vas travailler sur ton jeu et depuis ça fait 5 ans que je travaille sur mon jeu et je prends des cours et j'ai investi réellement en fait.
Le diplôme, c'est ta première grosse série
française? Oui française, c'est la première série en fait, le premier projet qui est purement français, il y a que des français. Et en plus j'ai eu de la chance de travailler vraiment avec des gens dont je suis tellement admiratif, je les voyais à l'écran et j'étais pas indifférent en fait d'y être et j'étais très très même flatté d'être avec eux sur le plateau et de les voir agir et tout. Du coup bien sûr je suis un bon acteur, du coup j'ai caché en fait le petit fan à l'intérieur de moi, mais j'étais très très fan et j'étais vraiment admiratif et d'autant plus en fait les voir opérer en fait sur scène, c'était quelque chose.
Eh bien, vous allez découvrir, en tout cas continuer à découvrir j'espère le diplôme. Les 4 premiers épisodes sont déjà bien sûr sur TF1+, et puis les 2 derniers, c'est le grand final, c'est ce soir sur TF1 à 21h10. Ahmad, on va découvrir le final des aventures du Sen. S'il y a une suite, t'as envie?
Bien sûr, après c'est pas moi qui décide, mais bien sûr j'ai très envie de voir ce qui va se passer aussi avec Hussein. Mais après c'est pas moi de décider, si ça se trouve je suis très content et satisfait si ça s'arrête là. Parfois les histoires ils sont faites pour qu'ils s'arrêtent à un moment donné, mais si jamais il y a une suite, ça ferait tellement plaisir de continuer.
Et bien en attendant, on va être tous devant le diplôme ce soir à 21h10 sur TF1. Merci beaucoup Ahmad.
Merci à toi.
Et tout de suite la bande annonce.
Intégrer notre lycée, c'est s'engager à venir tous les jours, de 18h à 22h.
Passer le bac à nos âges, c'est la honte.
Soyez pas courageux, moi, au contraire.
Je crois que je suis trop vieux pour ces conneries. Hein.
Est-ce qu'avoir le bac est vital pour vous, Madame Gilbert?
J'ai l'impression d'avoir 18 ans.
Rassurez-vous, ça se voit pas.
Le Diplôme, votre nouvelle série inédite, prochainement sur TF1.
Et notre coup de cœur télé aujourd'hui est consacré à la série Le Signal. C'est l'événement sur Novo 19, ça sera jeudi soir à 21h10. Les deux réalisateurs de cette série sont avec nous, Karim Ouaret et Slimane Baptiste Beroun. Sont là, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors moi je suis très heureux de vous avoir tous les deux parce que j'admire beaucoup vos travaux, on va dire chacun de vos côtés. Alors il est vrai que Slimane, moi je dois me confesser quand même, et ma série préférée reste Vortex devant beaucoup d'autres, mais en tout cas voilà, très très beau travail. Et là encore on va pas déroger à la règle, il y a du fantastique, il y a du drama, il y a du thriller, il y a du suspense, il y a tous les ingrédients en fait qui sont réussis dans cette série signée François Usan, qu'on aime beaucoup aussi et qu'on a plaisir à retrouver pour cette série aussi. Les deux, on va parler de la réalisation dans un instant, mais déjà on va planter un peu le décor. On arrive sur une petite île bretonne qui s'appelle Carnolet. La famille Dormeuil arrive ici pour s'installer et prendre un nouveau départ. La fille Camille, elle est un peu perchée, hein, on peut le dire, hein, je crois. Elle est jouée avec brio par Sarah Pachoud, qui est toujours d'ailleurs au cinéma dans Qui brille au combat en ce moment, le film de Joséphine Japy que je vous conseille. Évidemment, Sarah a été notre invitée il y a 3 semaines et il est vrai que voilà, il y a plein d'ingrédients différents et c'est une adaptation, je crois, d'un roman avec du très très lourd en romancier, hein, tous les deux.
Ah bah oui, on est fiers d'avoir adapté la premier roman en série télé de Maxime Chatham, qui est un grand maître de l'horreur, qui est considéré comme le Stephen King français, donc c'est un grand honneur pour nous.
Alors là que j'ai la chance de vous avoir tous les deux, comment on fait pour s'organiser au niveau du travail quand il y en a un qui va mettre en boîte 3 épisodes, l'autre les 3 autres, il faut garder évidemment le même ADN, il faut garder la même façon, la même ligne éditoriale posée sur la série dès le départ, ça doit être difficile la passation des fois.
Bah, pas tant que ça, parce que c'est quelque chose qui se prépare vraiment en amont. En fait, moi j'ai fait les épisodes 1, 2, 3 et en même temps j'avais un œil sur la direction artistique globale de la saison et on a beaucoup échangé avec Karim sur 4, 5, 6 et puis le tournage étant un peu cross-bordé, c'est-à-dire que certains jours c'était lui, certains jours c'était moi parce qu'on essayait de rentabiliser les décors. Bah en fait, quand on est deux êtres humains qui sont bien placés en termes d'ego et d'artistique, bah les échanges sont fluides. Et comme on a la même vision de la série, qu'on fait le même projet, qu'on a envie qu'elle soit le mieux possible,
ouais, ça aide.
Finalement, ça se passe bien.
Mais
ouais,
oui.
Tout ça, c'est vraiment une question de communication. Hein.
Alors, on vous a mis entre les mains des rôles, ça, on vous a mis quand même entre les mains. Hein, au niveau des acteurs, Clotilde M, Grégory Montel, Annabelle Langron, qui joue l'enquêtrice, c'est vrai qu'on vous a mis quand même quelques rôles, ça, au niveau des comédiens.
Oui, bah, c'était une série assez prestigieuse, puisque à l'origine, c'était quand même la première série de Paramount Plus France. Donc, il y avait quand même cette ambition de casting. Après, il y a eu des suites rocambolesques qui font que c'est le lancement de Nouveau 19 et c'est très chouette pour Nouveau 19.
Et oui, parce que tout le monde y a accès gratuitement, du coup. Et ça, c'est bien.
Oui, exactement. Ça, c'est très chouette parce que le but, c'est aussi que cette série qui dort depuis quasiment 2 ans soit aujourd'hui visible par le plus de personnes possible, parce que c'est le fruit du travail de toute une équipe.
Et il faut bien que le malheur des uns fasse le bonheur des autres. Donc au moins, ça va faire le bonheur de nous, tes spectateurs, et surtout de Nouveau 19, que ça va mettre vraiment en avant, puisque depuis son lancement, début septembre, il y a eu plein de nouvelles émissions. Et là, ça va être l'occasion vraiment de proposer la première grosse fiction de prime time sur cette chaîne, qu'on rappelle qu'est sur le canal 19 de la TNT, comme son nom l'indique.
Exactement. C'est un grand challenge aussi pour Nouveau 19. Donc on espère que le public sera présent, sera au rendez-vous et qu'on fera péter les scores.
Comment vous avez fait tous les deux au niveau de la réalisation? Est-ce que vous avez lu le livre avant? Il y a deux écoles généralement. C'est soit on lit le livre avant ou alors justement on refuse de le lire avant. Des fois quand on l'a lu sans savoir qu'on allait faire le projet après. Mais il y a vraiment ces deux écoles-là pour garder une certaine fraîcheur. Comment vous avez procédé tous les deux?
Alors moi, en ce qui me concerne, on m'a demandé de pas le lire parce que pour le coup, c'est une adaptation qui est très très libre. C'est très très librement inspiré du roman et je pense que c'était pas plus mal que je me concentre sur l'œuvre et l'histoire qui était racontée par Usan et les équipes de Gaumont sur l'adaptation, qui est en fait un peu une autre histoire quelque part. Donc moi, mon cerveau, il était à 100% là-dessus. Après Karim, toi, je sais pas si tu l'as lu.
Moi, j'ai volontairement, je l'ai pas lu, je l'ai lu après. Parce que comme Slimane, je voulais avoir l'esprit frais, je voulais avoir ce regard différent, ce regard neuf. En plus, comme dit Slimane, c'est une adaptation libre de François Usan. Donc on retrouve les codes, l'ambiance de et l'univers de Maxime Chatham, mais après voilà, on part sur d'autres choses et c'était important pour moi d'arriver avec un regard neuf et de pouvoir après aussi proposer de nouvelles choses.
Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Maxime Chatham, hein, la série, moi je déconseille quand même malgré tout de la mettre devant tous les yeux et notamment devant les moins de 10 ans parce qu'il y a beaucoup de scènes quand même qui sont très impressionnantes, il y a beaucoup de choses qui passent aussi par le regard ou la façon d'être de Camille qui est un peu quand même le fil rouge hein, de cette série dans le personnage. Que joue Sarah.
Complètement, c'est Sarah Pachou, c'est notre héroïne. Tout se vit à travers ses yeux, tout se vit à la hauteur de ses enfants. On a évidemment les adultes qui enquêtent de leur côté, mais il y a un côté très Goonies aussi dans cette série qui est assez jouissif, un peu Stranger Things aussi d'aller à hauteur d'enfants en vélo dans l'île. Eux, ils croient aux fantômes, ils croient aux monstres, et donc forcément, ils se mettent sur la piste du tueur, quoi. Et c'est assez satisfaisant à voir.
Oui, parce qu'il va s'en passer des choses là sur cette île. Hein.
Exactement, il va s'en passer. Et puis pour continuer par rapport à ce que tu disais par rapport au livre de Maxime Chatham, même si on l'avait pas lu avec Slim, ce qui était très important pour nous, c'était de respecter l'univers de Maxime Chatham. C'est le maître de l'horreur et du suspense, de l'épouvante. Et puis ça nous tenait vraiment à cœur de mettre en avant ça à l'image, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je reçois un projet de série à réaliser qui va aussi loin, qui est aussi ambitieux donc on a pris notre pied à mettre tout ça en image, quoi.
En fait, on l'a rencontré, Maxime Chatham. Moi, j'ai pas lu le livre, mais on l'a rencontré, je l'ai rencontré et on s'est justement parlé de son approche de l'adaptation soit vous avez affaire à un auteur qui est très proche de son texte, qui est très control freak, et dans ce cas-là, évidemment, il faut mieux lire le livre parce qu'on va exactement porter ça à l'écran.
Bah oui.
Soit vous avez affaire à quelqu'un qui voit les choses différemment et qui dit qu'une œuvre audiovisuelle est forcément différente d'une œuvre écrite, littéraire, et que donc, il faut assumer ces différences. Et ce que Maxime disait, c'est moi, mon cerveau, il a écrit le bouquin, maintenant, je confie à d'autres gens la création d'une série qui est une œuvre vraiment différente. Donc quelque part, surprenez-moi. juste essayer de respecter le fond de l'ADN de ce que j'ai fait, et c'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord en discutant.
Exactement.
Mais pour le coup, il avait aussi envie d'être spectateur, je pense, de la réinterprétation de sa propre histoire.
Être spectateur et aussi acteur, parce qu'on a réussi à et on a eu la chance de l'avoir dans la série, donc qui interprète un personnage dans la série, donc c'était d'autant plus gratifiant pour nous.
C'est en tout cas l'événement, hein. Vous allez voir jeudi à partir de 21h10, c'est deux premiers épisodes, la série sera en intégralité dès jeudi bien sûr aussi sur la plateforme Novo 19, ça s'appelle Le Signal. Alors c'est vrai que comme elle a été tournée maintenant depuis deux ans, cette série-là, j'imagine vous avez fait plein de choses depuis, mais quels sont vos projets pour 2026 à tous les deux, Karim, déjà pour commencer?
Moi, c'est la finition de l'écriture de mon premier long métrage et puis d'un projet de série perso. Et donc voilà, je suis très content d'arriver au bout de cette écriture et de que ce soit en lecture. Et voilà, on croise les doigts pour que ça soit signé en 2026. En tout cas, c'est bien parti avec la diffusion de la série. Donc voilà.
Et vous, Slimane Baptiste, du coup, il y a eu Bête de flic qui est passé vendredi, justement, vous pouvez rattraper sur France.tv avec Fred Testo qui parle aux animaux. J'espère que c'est le pilote d'une série parce que ça, c'est savoureux aussi, hein.
Ouais, c'était très sympa à faire. Pour le coup, ça changeait vraiment, vraiment de genre après avoir fait de l'horreur, après avoir tué et tripé tous ces gens sur l'île de Kernolet. C'était sympa aussi de faire parler des animaux. Ça aère un petit peu la tête. Et là, je suis parti pour un film sur l'univers des assistants sociaux. Une comédie dramatique portée par Mathieu Madénian. Voilà, c'est le programme.
Et bien voilà, c'est en tout cas très très bien tout ça. Le Signal, c'est jeudi à 21h10 sur Novo 19. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et on se retrouve
Merci
bientôt,
à
j'espère. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. À bientôt.
À très vite.
On est quand même moins emmerdés qu'à Paris.
Ah bah c'est ce qu'on voulait, non?
Ouais, ouf.
On parle. Salut. Ah, voilà la nouvelle star de Lille. Enfin le nouveau toubib. Isabelle Le Goff.
Ah bonjour.
La mère de Kernolet. Alors ça va, bien installé?
Écoutez, oui, on n'a pas encore fini, mais on fait une petite pause, là.
Voilà. Oula! Un chien.
C'est Phoenix.
Aïe. Il a pas l'air malin.
Aïe, c'est pas une flèche, non?
Non.
On aime bien quand même.
Et puis il a une bonne bouille, voilà. Et la gamine?
Camille.
Alors, voilà, c'est celle qui a l'air de chercher du pétrole, là.
Et qu'est-ce qu'elle a dans la main?
Notre fille est très gadget, technologie, on est un petit peu perdu d'ailleurs, mais...
D'accord. C'est sûr que pour les jeunes, c'est pas facile de s'adapter à notre caillou. Comme on est chez nous, hein, de toute façon, pour être de Kernolet, il faut avoir au moins deux tombes sur l'île.
Ah, oui.
Oh ! Allez, notre coup de cœur télé consacré à Demain nous appartient. Votre série, vous suivez du lundi au vendredi, évidemment, à 19h10 sur TF1. Et vous avez vu débarquer jeudi dernier un nouveau personnage, celui de Vaïna, incarné par Andrea Furet, qui est avec nous. Bonjour Andrea.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va très bien. Je suis très heureux de t'avoir à nouveau. On a eu l'occasion de s'appeler il y a quelques années à l'occasion de ton prix d'interprétation féminine au Festival de Luchon avec ce magnifique téléfilm Il et Elle. Et puis après, il y a eu le parcours à Miss France. Moi, j'ai l'impression que partout où Andrea Furet passe, eh bien, tu laisses personne indifférent. Et ça, c'est chouette. Et je pense que dans Demain nous appartient, ça va être encore le cas, hein, il me semble. Hein.
C'est très gentil. Eh ben oui, écoutez, en tout cas, le personnage de Vaïna, c'est une entrée plutôt fracassante, hein, si on peut le dire. Il semble une grosse valise remplie de secrets et de doutes.
Et oui, qu'on va voir se dévoiler au fur et à mesure des jours. Alors on peut dire, hein, je crois qu'en tout cas, que Vaïna est une jeune fille où tout va pas très bien, en tout cas dans sa vie. Elle est sous la coupe d'un bourreau, semble-t-il. Mais la rencontre avec Sarah Exactement. Et Roxane dans les épisodes qu'on vient de voir, en tout cas, risque bien de bouleverser son destin. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle, justement, chez Vaïna, déjà, pour commencer, Andrea?
Ce qui me plaît, c'est un peu son côté. Elle cherche à bien faire parce que, voilà, elle se retrouve hébergée, notamment par Sarah Roxane. Et elle n'a pas forcément grandi dans des conditions très simples.
Ouais.
Et donc, dès que ces personnes lui montrent de l'attention, lui montrent de la gentillesse, et elle, forcément, elle n'est pas très habituée. Donc, elle a envie de tout bien faire pour bien s'intégrer. Parce qu'en même temps, elle adore ce joli cadre familial qu'elle représente, chose qu'elle n'a pas forcément eu la chance de vivre dans son passé.
Et elle va s'attacher très fortement à ce cadre familial.
Exactement, oui.
Voire même un peu trop.
Voire même un peu trop. Et justement, essayer de tout bien faire. Et parfois, voilà, ça peut-être qu'elle va un peu dépasser les bornes, mais sans s'en rendre compte, en fait, ce ne sera jamais par mauvaises intentions. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est finalement remplie, malgré ce qu'elle a vécu, de bonnes intentions. Et elle a un bon fond, elle a vraiment un grand cœur. Et elle demande, je pense qu'il y a une part aussi qui ne demande qu'à être aimée et à ce qu'on prenne soin d'elle. Que toute sa vie, elle a plus ou moins dû se débrouiller par ses propres moyens et voler de ses propres ailes. Et en même temps, ce qui me plaît chez elle, c'est cette part de mystère. On ne sait pas trop d'où elle vient, qu'est-ce qu'il y a autour de cette agression, que des fois, elle dit vraiment la vérité, est-ce qu'elle n'est pas un peu dans le mensonge, dans la dissimulation. C'est assez intéressant à jouer. En tout cas, j'espère que le public sera pris à 100% dans cette petite enquête.
Oui, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que chez Vaïna, il y a plein de secrets, il y a plein de questions qu'on peut se poser. On peut non seulement s'attacher au personnage, mais aussi se dire, voilà, qui est-elle vraiment? Est-ce qu'elle protège quelqu'un? Est-ce que, voilà, il y a plein de directions dans lesquelles on peut aller, en tout cas déjà à la vue de ces premiers épisodes qu'on a vu la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est à la fois attachant, complexe et qui nous interroge en tout cas tous. Andrea, est-ce que ça fait peur d'arriver dans une quotidienne quand on connaît le rythme soutenu que ça peut représenter un tournage comme celui-là et sur une arche comme là, quand on est sur une arche principale comme là tu es pendant quelques semaines, ça représente énormément de scènes tous les jours à tourner, à apprendre. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a fait peur?
Ça ne me fait pas peur, je n'ai peur de rien. Non, en vrai, c'est pas déstabilisant. Moi, en l'occurrence, c'est ma première quotidienne. Et qu'on arrive, on se sent super bien accueilli, super bien entouré. Tout le monde est là pour nous. Tout le monde est là pour répondre à nos questions. Il y a une grande bienveillance et une générosité qui se dégage du plateau. C'est vrai que ça peut déstabiliser certains, forcément, parce qu'on arrive, hop, il y a plusieurs équipes de tournage. On enchaîne. Des fois, il y a des grosses journées, donc c'est quand même des rythmes assez conséquents. Mais moi, en l'occurrence, je le prends toujours avec le sourire. Je fais ce métier de toute façon parce que c'est ma passion et parce que je le fais par pur plaisir. Donc vraiment, je suis ravie. Et plus il y a de texte, hein, j'ai envie de dire, plus je suis contente. Donc
Mais il faut dire que quand même, tu tournes pas mal de scènes et on va te voir beaucoup aux côtés, notamment de Camille Jeunot et Raphaël Volkoff. Et c'est vrai que je pense que c'est certainement deux des comédiennes les plus gentilles que je connaisse. Et c'est vrai que ça doit être génial de pouvoir tourner avec elles deux.
Dès qu'on s'est vu, on a eu un coup de cœur. Vraiment, on s'entend super bien. On est déjà très complices et c'est important justement avec les personnes avec qui on tourne le plus sur une longue durée d'être. Si on s'entend très bien et si on est complice à la vie, ça va forcément se voir à l'écran. C'était vraiment important d'établir cette connexion. Mais en tout cas, voilà, c'est un pur plaisir de jouer avec elle et elle, c'est de super partenaires de jeu en tout cas.
T'as pu échanger justement sur ton parcours un peu hors norme de ces dernières années. T'as marqué l'histoire de Miss France, on le disait, mine de rien, de présentant. Et en arrivant sur ce plateau, t'as été presque à une marche pour le coup de l'élection Miss France, mais t'as terminé quand même première dauphine de Miss Île-de-France. C'est un parcours absolument magnifique.
Première dauphine Miss Paris.
Non mais c'est dingue.
C'est une belle expérience. Après, c'était il y a quoi ? C'était il y a 3 ans. J'ai encore fait mon petit bout de chemin depuis. Et je compte pas m'arrêter là. C'est vrai que c'est marrant de se dire qu'on a touché au concours de beauté. Puis maintenant, on continue les tournages. Moi, j'ai toujours dit forcément que c'est super. Hein, c'est des paillettes dans les yeux, les concours de beauté. Mais moi. En l'occurrence, je suis actrice depuis que je suis enfant, je vais continuer à le faire. Donc voilà, c'est un vrai bonheur.
Et oui, et ça c'est le principal. Et si je te dis Périgueux, ça te dit quelque chose, j'imagine ?
Évidemment que ça me dit quelque chose, ben le oui. Périgord.
Ça fait partie des projets à venir, un meurtre en Périgord vert dans lequel on va te voir aussi.
Le Périgord, on adore. Meurtre en Périgord vert, où j'ai la chance d'interpréter le rôle d'Emma Lambert, une lieutenante de police, où je joue d'ailleurs aux côtés d'Adrien Robe, qui est comédien sur DNA également. On est ravis tous les deux. Et ouais, Meurtre en Périgord vert, du coup, qu'on a tourné l'année dernière et qui va sortir très bientôt sur France Télévisions.
Bah oui, exactement. Ça sera un samedi soir, évidemment, sur France 3 pour ce nouvel opus de la collection. En tout cas, je pense que tout ce qui est Ribérac, etc., n'a plus aucun secret pour toi, du coup. Maintenant, dans cette...
Non.
Belle région, voilà, effectivement. Alors, en tout cas, on va découvrir Vaïna. Pour ceux qui l'ont pas encore découvert, vous avez bien sûr le replay TF1+. C'est les deux derniers épisodes de la semaine dernière. Et puis, on va continuer, en tout cas, à découvrir le destin de cette jeune fille qui vient d'arriver dans Demain nous appartient, que tu incarnes, en tout cas, pour maintenant quelques semaines. Si le personnage plaît, ouais. Si tout ça se passe bien, est-ce que toi, tu as envie de continuer, en tout cas, est-ce que tu as envie de défendre Vaïna sur la longueur?
Ça me ferait vraiment plaisir, parce que là, franchement... Depuis que je suis arrivée, j'ai pris goût. J'aime bien finalement cette ambiance de quotidienne où tout va un petit peu vite, tout s'enchaîne et en même temps, il y a toujours le temps pour... De toute façon, je l'ai dit, si on a une question, si on a un doute, on a des gens qui sont là pour nous. C'est une grande équipe, mais grande équipe, c'est aussi une grande famille au-delà de ça. Et j'ai déjà créé des liens avec beaucoup de personnes. Et franchement, c'est sympa de tourner à la fête, quoi, dans le sud de la France. Bon, là, il commence à faire froid, on commence à le ressentir, mais franchement, c'est génial, je trouve, de travailler dans ce cadre.
Ben oui, à la fois, on est au mois de janvier, c'est normal.
C'est ça, ouais. Là, j'ai tourné des scènes en extérieur, on se caillait un petit peu, mais on a le sourire. Et moi, si on me propose de revenir, j'espère que le public m'aimera assez pour me faire revenir. Mais ouais, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir.
Bon, en tout cas, à ce soir dans l'épisode 19h10 sur TF1 pour la suite des aventures de Vaïna dans Demain nous appartient, qu'on va découvrir. Et évidemment, on va voir qu'elle est liée à plein d'autres personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette arche qui s'annonce en tout cas intense en émotion. Merci beaucoup, en tout cas, Andrea, d'avoir été avec nous. On te dit à bientôt.
Merci, à bientôt. Et puis, j'ai envie de dire, on se pose quand même une question. Est-ce que, dans le cas de Vaïna, Demain lui appartiendra?
Réponse ce soir à 19h10 sur TF1. Merci beaucoup.
Exactement.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Perdre le contrôle, à force de tout contrôler, j'ai pris le mauvais rôle. Je tourne en rond tout seul, enfermé, sans les gens que j'aime autour de moi. C'est vide quand je tends les bras, y a personne, personne là. Le souffle qui s'emballe et le cœur qui me lance. Pourquoi dedans ça cogne plus que ça danse? Y'a comme un drôle de vertige, tout autour ça se fige. Si je perds l'équilibre, seras-tu là? Comme une route à suivre entre tes bras. Quand on m'appelle, je réponds plus du tout. Je sais, j'essaye, mais je suis encore à bout. Je veux pas rester tout seul, mais le monde m'ennuie. J'ai déjà tout dit. Parler, ça sert à quoi? Trop de choses que je dis pas. Y'a personne d'autre que toi. Le souffle qui s'emballe et le cœur qui me lance. Pourquoi dedans ça cogne plus que ça danse? Encore une fois, y'a comme un drôle de vertige. Tout autour ça se fige. Si je perds l'équilibre, seras-tu là? Comme une route à suivre entre tes bras. Si je perds l'équilibre, seras-tu là? Comme une route à suivre entre tes bras. Si je perds l'équilibre.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité aujourd'hui, c'est Tom Frager. Vous le connaissez bien évidemment, interprète du tube anthologique Lady Melody et qu'on a grand plaisir à suivre depuis très longtemps. Tom est notre invité à l'occasion de la sortie de l'album 7e Continent et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'amis dans cet album. On va en parler. Bonjour Tom.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. On va pas parler surf, on va parler musique. Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle plus musique que surf. Hein, c'est vrai. Et cet album, 7e Continent, c'est un album très à part, très différent en fait des autres, puisque c'est un album collaboratif. Alors explique-nous un peu justement, d'une, le terme et le côté collaboratif de cet album, d'où son nom 7e Continent. C'est très important puisque t'es très engagé, on le sait, pour la planète.
Déjà, merci de me recevoir. J'avais très envie d'un album de duo depuis longtemps parce que la musique, j'aime la partager. Et il se trouve que c'est vrai, tu l'as dit très justement, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis engagé avec des associations comme Surfrider Foundation, Cetacy qui s'occupe des mammifères marins. Comme j'ai une première vie de surfeur en équipe de France, bah, c'est un sujet, la protection des océans, qui m'a toujours touché. J'en parle dans un petit peu dans tous mes albums depuis le début de ma carrière de chanteur. Et sur cet album, j'avais envie d'aller encore plus loin. Donc j'ai fondé une association qui s'appelle le Mouvement Bleu, avec laquelle j'essaye d'entremêler mon activité artistique et mes engagements écologiques. Du coup, j'ai eu envie de m'entourer de personnalités, de chanteurs, chanteuses, pour faire ce qui est le premier album collaboratif pour la protection des océans, et donc qui est introduit par Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, entre autres.
Et oui, premier titre, hein, c'est Paul Watson qui est introduit avec toi, effectivement. Mais on va se rendre compte qu'il y a du très très beau monde. Guillaume Grand, Danakil, Ben Mazoué, pour les plus anciens, Hugo Frey. Vous allez voir, il y a Peps aussi, hein, qui nous parle, nous, à tous. Zaou. Baptiste Ventadour, Zaou, enfin, c'est absolument dingue, ils t'ont tous accompagné.
Ouais, je suis très heureux. J'ai beaucoup de chance d'avoir été si bien entouré pour ce projet. J'ai contacté beaucoup de monde. Il y a des artistes qui n'ont pas vraiment répondu. Puis il y en a d'autres qui ont répondu tout de suite. Et ils sont là sur cet album. Pas tous, parce que je projette de faire un autre.
Un deuxième volume.
Un deuxième volume, voilà, parce que j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Mais c'était vraiment un plaisir musicalement aussi pour moi de visiter des univers artistiques si variés, parce que avec Hugo Frey, on a fait de la folk à la Bob Dylan, avec Danakil, c'est du reggae à l'africaine. Voilà, donc c'est un album qui est très varié.
La sensibilisation, justement, à la protection des océans via la culture. C'est quelque chose qui est osé, qui à la fois est importante, et peut-être que justement, le message va encore mieux passer.
Je l'espère, je pense vraiment que c'est le message de Paul Watson au début de cet album, qui dit que depuis toujours, les artistes ont eu un rôle à jouer pour défendre des causes majeures. Et moi, j'ai choisi cette cause-là parce que je me sentais légitime, de la même manière que les rappeurs sont, je crois, légitimes pour parler peut-être des problèmes de la rue. Moi, j'ai eu envie de parler des problèmes de l'océan parce que j'ai grandi littéralement dans les vagues en tant que surfeur, et du coup... Je me semblais à la croisée des chemins, entre ce combat écologique pour les océans et mon travail d'artiste, de musicien, chanteur. Et je crois que quand on est derrière un micro, c'est important de faire passer des messages.
Voilà. Alors la musique a un tel pour faire passer des messages, mais en plus avec des grands noms comme ça, ils ont tous dit oui tout de suite pour t'accompagner.
La plupart d'entre eux, on s'était déjà rencontrés sur des festivals, on s'était croisés lors d'émissions radio ou télé. Donc quand je les ai contactés, je pense que oui, tout le monde a été plus ou moins sensible quand même à cette cause. Et puis certains m'ont dit, écoute, propose-moi une chanson et puis j'écouterai la chanson. Si ça me plaît, je ferai partie du projet.
C'est donc toi qui as tout composé, écrit ?
Oui, alors j'ai composé toute la musique de toutes les chansons, et j'ai écrit parfois tous les textes et parfois la moitié des textes pour laisser l'autre moitié à l'artiste qui souhaitait écrire sa partie. Certains ont préféré que j'écrive tout et d'autres avaient envie de poser
mettre un peu leurs pattes.
Exactement. Voilà.
C'est génial. Alors, je vais pas te demander de quel titre t'es le plus fier, parce que j'imagine que t'es fier de tout l'album, mais il va falloir choisir quand même un maintenant que t'as envie de nous faire écouter. Mon cher Tom, lequel t'as envie? Alors, et pourquoi surtout?
Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses très différentes sur cet album. J'ai bien envie de vous faire écouter dans un premier temps le titre avec Danakil, qui pour moi est le groupe de reggae français, symbolique de la scène reggae. En France, ils ont des très beaux textes. C'est un titre un peu coup de poing, engagé, vous allez voir. Il s'appelle Marche arrière. Et il dit que la meilleure façon d'avancer, c'est probablement de faire marche arrière aujourd'hui.
On l'écoute tout de suite, Marche arrière, Tom Fragé avec Danakil. Et on revient tout de suite après avec Tom, qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son album 7e Continent, un album collaboratif que vous pouvez retrouver dans tous les bons magasins culturels.
Parce qu'on n'est rien sans elle, parce que la nature ne parle pas, et surtout parce que le temps nous est compté. Parce que le 7e continent nous rappelle que sous les emballages et les codes-barres, il y a l'océan qui nous a porté. Parce qu'on a déjà beaucoup perdu et que le vrai manque à gagner, on le sait bien, c'est l'avenir de nos enfants. Parce qu'on nous a bien prévenu que rien ne sera jamais réglé tant que le seul à décider, c'est l'argent. Quand il ne restera que les cendres des arbres et des forêts, quand le béton aura fini de couler, quand il n'y aura plus rien à défendre que le silence effaré de nos gosses devant celui des chants d'oiseaux oubliés, quand les baleines de Paul Watson ne seront qu'un lointain souvenir, quand les harpons auront remporté la victoire, quand c'est le bon sens qu'on emprisonne, c'est que le pire est à venir et personne ne pourra jamais changer le cours de l'histoire. L'avenir de nos enfants à travers la fumée. Je crois que la lune aussi se demande comment le monde continue de tourner. Je me dis que la meilleure façon d'avancer, c'est sûrement de faire marche arrière. Et les étoiles continueront de danser au-dessus de la mer. Parce que
que la vie n'est belle que pour être vécue. Il ne tient qu'à nous de la protéger. Parce que la course est folle et l'ambition est têtue. Les pilotes ne veulent pas voir le danger. Parce qu'on a poussé les limites sans retenir. Le pronostic vital est engagé. Parce qu'on lit le livre à l'envers et qu'on s'habitue. On confond la fin et le début. Quel est le fou qui craquerait l'allumette pour mettre le feu à sa maison? 8 milliards d'êtres humains sur la planète et moins de réponses que de questions. Le vrai problème n'est pas de trouver, mais plutôt d'accepter la solution. L'abondance mène à la pénurie, l'océan se sent seul. L'industrie lui a volé tous ses poissons. Je ne vois plus l'avenir de nos enfants à travers la fumée.
À travers la fumée.
Je crois que la lune aussi se demande comment le monde continue de tourner. Je me dis que la meilleure façon d'avancer, c'est sûrement de faire marche arrière.
Sûrement de faire marche arrière.
Et les étoiles continueront de danser au-dessus de la mer.
Au-dessus de la mer.
Allez, Tom Frager, notre invité aujourd'hui, 7e continent, c'est l'album à ne pas rater. Aujourd'hui, on va vous dire comment vous le procurez, évidemment, cet album dans un instant. Tom, on disait de grandes collaborations, un album engagé, surtout, c'est qu'il y a une partie reversée aussi à une association qui lutte, évidemment, pour la sauvegarde des océans.
C'est ça, nous avons créé une association qui s'appelle Le Mouvement Bleu, avec laquelle je veux faire de la sensibilisation à la protection des océans, auprès des écoles, auprès des vacanciers, l'été notamment, et avec laquelle aussi j'organise un festival dans mon village qui s'appelle Cabreton dans les Landes, le Music for Oceans Festival. Donc voilà, l'idée c'est de produire du travail artistique, que ce soit donc festival de musique, album collaboratif comme cet album 7e continent, peut-être un jour des expos de photos, je sais pas encore, mais de rallier vraiment l'art au combat pour l'écologie, pour les océans. Voilà.
Alors, on le disait, c'est vrai que le message peut passer évidemment beaucoup plus hein, quand il y a ce style de choses qui se développent à travers la culture, parce que finalement la culture, l'écologie, tout ça, tout est étroitement lié finalement. Et parmi tous les grands artistes qui sont avec toi sur ces musiques, on trouve Hugo Frey. Alors moi, j'ai été très ému de voir Hugo Frey à tes côtés, justement à l'enregistrement de ce titre, parce que quand on voit ce grand monsieur du haut de son grand âge qui est aujourd'hui encore sur scène, c'est un exemple pour vous tous les artistes, ça.
Un exemple de longévité, un exemple d'humilité, de gentillesse. C'est quelqu'un qui est très très ouvert à la discussion. Vraiment, je me faisais la réflexion en discutant avec lui il y a pas très longtemps, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît maintenant. J'ai eu la chance de faire ses premières parties à la salle Playel à Paris. Au départ, c'est lui qui m'a contacté, Hugues, un jour. Il avait vu un documentaire sur moi, un 50 minutes qui passait sur une chaîne du câble, et il s'est dit, tiens, je vais appeler ce mec-là. Et donc, extraordinaire, un jour, mon téléphone sonne et c'est Hugo Frey au bout du fil. Et donc, une belle amitié qui s'est tissée entre nous. Et quand je lui ai proposé de venir chanter sur cet album, il m'a dit, fais-moi une belle chanson et je viendrai chanter. Et donc, je lui ai dit, toi, tu aimes l'eau, Hugues, puisque tu as chanté Santiano, tiens bon la barre, tiens bon le vent.
Oui, c'est un peu l'hymne des marins, hein, je dirais même.
Tiens bon la vague, pardon. Et donc, il m'a dit, figure-toi que j'ai très, très peur de l'eau. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire une chanson, moi étant surfeur, justement, un peu au second degré, qui dit, je déteste l'eau et moi vivant, jamais je ne mettrai un pied dans l'eau. Voilà. Donc, c'était dans le thème de cet album.
Ouais, c'est ça qui est assez dingue de voir des gens comme ça à ses côtés. Il y a eu une très belle reprise de Eddie Melody avec Philippine Lavray aussi, je crois, avec qui t'es devenu très ami aussi. C'est difficile de faire des choix quand il y a un album comme ça. Faut choisir 15 titres. Tu le disais, il y a un volume 2 qui est peut-être en préparation. Et aujourd'hui, il y en a déjà qui sont sur les rangs pour y aller sur ce volume 2 à tes côtés.
Bah, disons que j'ai contacté beaucoup d'artistes, j'ai eu beaucoup de réponses et avec certains ça s'est fait rapidement et avec d'autres c'est un petit peu plus compliqué en fonction des agendas des uns et des autres. Donc j'ai déjà des prises de contact avec d'autres artistes nationaux, internationaux avec lesquels j'ai envie de collaborer et donc si ça s'est pas fait là, je pense que ça se fera pour le suivant, oui.
Voilà. T'as des rêves ou pas là-dessus justement ? Des collaborations que t'as pas encore enclenchées et que t'aimerais ?
Il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie, que j'aime écouter. Moi, j'écoute des choses très très variées. J'écoute du rock qui tabasse, j'écoute de la variété, du reggae, plein de choses. Donc oui, j'ai des rêves comme tous les artistes. Mais bon, il y en a qui me semblent intouchables, mais j'adore Sting, j'adore Ben Harper, à l'international, c'est pas ce qui manque. Et puis j'adore Francis Cabrel, j'adore plein d'artistes de chansons.
Ça, c'est du touchable.
Voilà, j'aimerais bien. Et puis des copains, Dylan Lapassade, d'autres amis chanteurs, voilà.
Bon, en tout cas, Tom, on vous invite à découvrir cet album 7e Continent. Alors, comment on peut se procurer cet album ? Donc, déjà en magasin, en physique, hein, évidemment.
Alors cet album il est sorti donc effectivement en CD et en vinyle pour ceux qui ont toujours de quoi écouter des CD et puis le vinyle revient pas mal à la mode mais il est surtout disponible sur toutes les plateformes c'est-à-dire que sur votre téléphone avec Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes vous tapez 7e Continent et puis vous trouvez l'album. Il suffit juste de l'ajouter dans votre bibliothèque. Et à partir de là, pour chaque écoute, on reverse une partie des royalties qui sont générées à l'association pour faire des actions en faveur de la protection des océans. Voilà.
Voilà, c'est important. Et on va terminer, justement, par un deuxième extrait. Lequel, maintenant, t'as envie qu'on écoute ?
Alors, j'invite les plus curieux à écouter parce qu'on en a parlé le titre avec Hugo Frey, mais j'aimerais aujourd'hui vous faire découvrir une chanson avec un artiste que j'aime beaucoup. On se connaît depuis qu'on est tout gamin. C'est une chanson qui s'appelle Le jour d'après et que je partage avec Ben Mazuet.
Exceptionnel, Ben Mazuet, qu'on adore aussi. Le jour d'après, on écoute maintenant, c'est le deuxième extrait de l'album 7e Continent. Tom Fragé, qu'on vous invite à découvrir en tout cas et que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes plateformes de téléchargement légales et en magasin, en physique. Merci à toi Tom, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Combien de matins j'ai raté, combien j'ai loupé de réveil, combien de potes j'ai pas rappelé, combien manque à l'appel. Tous nos promis, nos jurés, toutes nos grandes révolutions, les fois où j'ai pas essayé, celles où j'aurais dû dire non. On ne va pas tout changer. On ne va pas tout changer. On peut quand même essayer un peu, on peut quand même. Chacun sur son bateau, on navigue en solitaire dans un monde à fleurs de peau. Je crois qu'on peut mieux faire. Y aura du beau, y aura des galères, des moments doux et des goûts amers. Y a toujours un après, et c'est déjà le jour d'après.
Il y a ce qu'on nous a donné, ce qu'on s'est battu pour avoir. Il y a les graines que l'on a semées et qui fleuriront plus tard. Et si le monde est un peu perdu, et si la vie nous dépasse entre ce que je crois et ce que je crois plus, y a peut-être une place.
On ne va pas tout changer. On ne va pas tout changer. On peut quand même essayer un peu, on peut quand même. Chacun sur son bateau, on navigue en solitaire dans un monde à fleurs de peau. Je crois qu'on peut mieux faire. Y'aura du beau, y'aura des galères, des moments doux et des goûts amers. Y'a toujours un après, et c'est déjà le jour d'après. Y'aura toujours des gens à aimer autour, des rageux et des chants, mais toujours. Mais l'éclaircie c'est toi.
Y'a des jours avec et des jours sans retour, parfois des tout droits sans détour, et des rêves qui ne doutent pas. Chacun sur son bateau, on navigue en solitaire dans un monde à fleurs de peau.
Chacun sur son bateau, on navigue en solitaire dans un monde à fleurs de peau. Je crois qu'on peut mieux faire.
Y'aura du beau, y'aura des galères, des moments doux et des goûts amers.
Y'aura toujours, y'a toujours un
le jour d'après.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, Valérie Bonneton, la présidente de jury du Festival de Luchon, sera notre invitée. On recevra Gary Méléanou pour La Belle et le Boulanger. Et puis ça sera notre spécial, Marcy Pulani, Philippe Lachaud et Julien Arruti seront nos invités exceptionnels. Et puis encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous ont reçus au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez tout au long de cette semaine qui vient de dérouler. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes nos images, nos photos, nos directs sur nos pages Facebook et nos réseaux Instagram ainsi que notre site internet onécoutelatélé.com. Et chut, on écoute la télé. Un grand merci à l'hôtel Le Castillon, restaurant chez Jules, nos partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont permis d'aller vous faire vivre cette semaine dans les Alpes comme si vous y étiez.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.